French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux États-Unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoins, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode pendant lequel nous discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent et qu'ils ont vécu. Moi, c'est Charlotte et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Mon invité du jour est arrivé en Grande-Bretagne dans le cadre de ses études. D'abord à Glasgow, en Écosse, puis au Royaume-Uni pour y travailler. Elle devait y rester qu'un an, et finalement, 5 ans plus tard, Ophélie y est toujours. Elle a accepté de témoigner à notre micro et nous raconte les belles aventures qu'elle vit outre-Manche. Bonjour Ophélie, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast.
Bonjour Charlotte, merci de m'avoir avec toi ce soir.
C'est un plaisir, comment vas-tu?
Ça va, c'est les vacances.
Ah, super. Et alors ouais, toi c'est... Ophélie, tu nous parles d'où?
Alors là, je suis à Scarborough, dans le nord-est de l'Angleterre.
D'accord. Alors justement, aujourd'hui, tu vas pouvoir nous raconter ton histoire d'expatriation. Pourquoi tu es partie en Angleterre et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment es-tu amenée à partir vivre outre-Manche?
Du coup, je suis partie une première fois pendant mes études en Écosse. Donc c'était wow. Il y a presque 10 ans maintenant, c'était en 2011-2012. Je suis allée un an à l'université de Glasgow.
Super.
Voilà, et j'avais pas du tout prévu de vivre à l'étranger. Hein. Je faisais juste mon petit parcours licence, et comme c'était une licence d'anglais, bon bah évidemment on s'attendait à ce qu'on ait une expérience de vie à l'étranger. Mais en fait, bah j'ai tellement adoré que je suis rentrée en France pour faire mon master, et 2 ans après, j'ai postulé pour donc un emploi qui se fait via les universités, qui s'appelle assistant de langue étrangère entre guillemets.
Ah, et le plus.
Voilà, c'est ça en fait. C'est une petite expérience que tu fais quand t'es étudiant généralement et bon entre deux entre master, licence, tout ça. Et je devais rester une seule année. Et donc j'ai atterri dans cette petite ville dans le Lincolnshire, alors un endroit que je ne connaissais mais pas du tout. Et ça m'a tellement plu que je suis restée une deuxième année et puis une troisième et que ben je suis toujours là.
Donc du coup ça fait voilà 5 ans plus tard t'es toujours en Angleterre au final.
C'est ça. Je suis partie en septembre 2014 et c'est vrai que les contrats d'assistant en général c'est un an. Sauf que bah l'école a beaucoup aimé mon travail donc m'a proposé de renouveler mon contrat une année supplémentaire voilà et encore une année et le maximum que tu puisses faire en tant qu'assistant dans une même école c'est 3 ans donc j'ai fait mes 3 ans et après j'ai volé de mes propres ailes.
Alors justement tu vas nous raconter tout ça mais tu pars en 2010-2011, tu avais donc 19-20 ans c'est ça au tout début de ta licence?
C'est ça. Alors, en fait, c'était en 2011-2012, j'avais 21 ans, c'était ma 3e année de licence.
Ah oui, d'accord, en L3.
Voilà, c'était ma L3 que j'ai fait à Glasgow.
Et t'avais d'autres opportunités d'aller à l'étranger ou c'était vraiment que l'Écosse dans ton choix?
Alors, en fait, je ne voulais pas partir du tout. on avait reçu les emails de candidature fin décembre 2010 du coup et moi ça m'intéressait pas du tout donc je les ai mis à la poubelle enfin dans ma boîte mail je les ai carrément virés je les ai pas lus parce que ça m'intéressait vraiment pas.
Et pourquoi
Bon, je sais pas, j'étais bien à Poitiers. C'était pas, je sais pas, je pense que j'avais un peu peur et que c'était vraiment pas quelque chose que bah que j'envisageais tout simplement. J'étais bien à Poitiers. Et en fait, c'était au mois de mars-avril, on a reçu un nouvel email qui nous disait qu'ils cherchaient toujours des gens pour aller en Angleterre et en Écosse. Et je dirais pas que l'idée avait fait son chemin, parce que pas du tout, mais comme j'avais eu un début d'année assez difficile, je me suis dit que peut-être ça me ferait un peu du bien de changer d'environnement.
De voir autre chose, là.
C'est ça. Donc du coup, j'ai pris le dossier le jour où on a reçu l'email, et le lendemain, je l'ai rendu, en fait. Donc ça s'est fait
D'accord.
super, sans réflexion au préalable.
Et quand tu étais en L3, quelles étaient tes perspectives d'études ou professionnelles après ça? Parce que j'imagine qu'avec une licence de langue, c'était prof, non?
Donc voilà, moi c'était une licence d'anglais, donc littérature et linguistique anglaise. Mm-hmm. Et je voulais pas être prof en collège ou en lycée, c'était pas du coup quelque chose qui m'intéressait. Par contre, je voulais faire de la recherche et être enseignante-chercheuse à l'université.
D'accord, donc tu te voyais encore faire un master, plus un doctorat derrière.
C'est ça, faire mon master, le doctorat, passer l'agrégation, c'était un peu le plan défini que j'avais en tête.
D'accord.
Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça.
Loin, loin de ça, finalement.
Loin. Très, très loin, en fait. Ouais.
Donc, du coup, mars, tu réponds à la candidature, mars 2011, et t'es prise tout de suite. Il y a des entretiens. Comment ça se passe?
Si mes souvenirs sont bons, j'avais rempli mon dossier en expliquant pourquoi est-ce que je voulais partir, en insistant bien sur le fait que ça allait m'aider à améliorer mon anglais parlé et voilà, et que je voulais me faire une première expérience de vie à l'étranger, en fait.
Bien sûr.
Il me semble que j'ai eu un petit entretien avec une de mes professeurs de traduction journalistique, et c'était juste vraiment parler de pourquoi est-ce que je serais bien dans le programme Erasmus, mais vraiment quelque chose. Voilà, c'est ça, quelque chose de très, c'était pas vraiment officiel, c'était plus pour voir comment pourquoi est-ce qu'il devrait me prendre moi plus que quelqu'un d'autre.
D'accord.
Et j'ai reçu la réponse très très rapidement, il me semble en mai. Ouais, donc quelques mois plus tard, j'avais la réponse, donc je savais que au mois de septembre, je ferais ma rentrée pas à Poitiers, mais à l'université de Glasgow.
Et alors l'Écosse, tu connaissais, t'avais une image en tête, tu savais à quoi t'attendre ou pas du tout?
En fait, j'avais une toute petite image, parce que mon tout premier voyage entre amis, donc sans mes parents, sans ma famille, c'était à Édimbourg en octobre 2008. Wow. Donc vraiment quelques mois avant, en fait. Mais à part ces 5 jours que j'avais passé à Édimbourg, je ne connaissais pas vraiment ni le pays, ni la culture. C'était vraiment tout nouveau. Et si j'avais choisi l'Écosse, c'est parce que les villes qui restaient ne me tentaient pas. Il y avait Liverpool, et je sais plus, Carlisle aussi, et je sais plus la troisième ville, mais voilà, c'était vraiment Glasgow qui sortait un peu du lot par rapport aux autres choix.
D'accord.
Mais j'avais vraiment pas d'a priori ou quoi que ce soit, c'était vraiment, je voulais partir, et je suis partie.
Et du coup, vous êtes en tant qu'étudiante de L3 française, est-ce qu'on vous aide à vous installer, ou une fois que tu as rempli ton dossier et que la candidature est acceptée, c'est un peu débrouille-toi pour aller là-bas, pour trouver un logement?
C'est complètement débrouille-toi, en fait. Tu as ton inscription à l'université et puis c'est tout. Voilà, t'as la paperasse, et puis on te laisse partir tout seul. Alors oui, c'était toute une aventure, hein, parce que je m'étais absolument pas préparée, en fait. Je suis littéralement partie à Glasgow avec mon sac à dos et les mains dans les poches.
Et comment t'as fait?
Alors, j'ai eu de la chance, parce qu'il y avait une autre fille, donc c'était pas une amie à l'époque, c'était vraiment une fille de ma promo qui a été aussi envoyée à Glasgow. Donc on a pris le même vol, donc on s'est retrouvés à Glasgow toutes les deux. Ça nous a permis de faire un peu nos premiers pas dans la ville. Mais il a quand même fallu trouver un appartement, ce qui a été une galère absolument incroyable. Forcément, quand t'es pas préparé, que ton anglais n'est pas parfait et que t'y as pas réfléchi, en fait, c'est compliqué. Mais on a réussi assez rapidement à trouver quelque chose, à ouvrir un compte en banque, à s'occuper vraiment des premières formalités sans trop de problèmes. Je pense qu'on a été assez chanceuse à ce niveau-là. Et donc du coup, au bout de quelques semaines, on avait un appartement, on était 6, donc avec d'autres écoles. C'était vraiment vraiment sympa, parce que c'était une coloc, il y avait 2 Écossais, un Italien, un Espagnol, et puis nous deux. Donc c'était vraiment très très sympa, vraiment chouette.
Mais alors du coup, Vraiment, donc une fois que tu as trouvé cet appart et que tu t'es débrouillé pour remplir tous les formulaires et tout, ça y est, tu vas à l'université, tu donnes tes premiers cours. C'était vraiment lâché dans le grand bain.
Ouais, c'est ça. Bon, après les profs connaissent bien le système des étudiants Erasmus, donc ils t'intègrent au cours. On te brief, on a des cours spéciaux pour les étudiants Erasmus où on te dit comment ça va se passer. Au niveau de l'université, vraiment, on étudie à l'université là-bas en tant qu'Erasmus, ça c'est vraiment pas de souci. C'est vraiment du côté tout ce qui est administratif et installation à l'étranger qui est vraiment démerdez-vous quoi.
Donc du coup, tu restes combien de temps à Glasgow? 4 ans, c'est ça?
Ah non, je suis restée 9 mois.
Ah oui, et après, t'es revenue en France finir les fins de tes études.
Voilà, c'est ça. Après, je suis revenue pendant 2 ans pour faire mon master, et c'est à la fin de mon master que je suis partie cette fois-ci en tant qu'assistante.
D'accord, oui, c'est vrai, j'avais loupé cette étape-là. Du coup, tu repars en tant qu'assistante, donc 2 ans et demi plus tard, on va dire, 2 ans, c'est ça?
2 ans.
Et là, le poste que tu trouves, pareil, tu dois te débrouiller toute seule pour arriver ou
Alors là, c'est vraiment au cas par cas, ça dépend vraiment de l'école où t'es envoyé. Parce que donc quand tu fais une demande pour être assistant, tu remplis des papiers, tu dis quelle région tu voudrais aller, ou est-ce que tu veux une grosse ville, une petite ville, et qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Moi, j'avais choisi la région du, je sais plus ce que j'avais choisi comme région, mais j'avais dit que le plus important, c'est que je voulais pas être dans une grande ville, parce que moi, les grandes villes, c'est pas trop mon truc. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Stamford. Stamford, c'est très beau. Il doit y avoir 20 000 habitants, mais bien caché. Et donc j'ai eu la chance parce que l'école qui a choisi mon dossier, c'était une école privée. Donc j'ai été accompagnée dès le début en fait. Je suis arrivée à la gare de Stamford. Mon mentor à l'école est venu me chercher en voiture. L'école avait un logement pour les assistants parce qu'on était 3. Il y avait une assistante de français, d'espagnol et d'allemand. Donc du coup, dès le début, en fait, j'étais assez bien à... Comment est-ce qu'on dit? Bon, j'ai perdu mon mot. J'étais bien accompagnée, c'est ça. L'école s'est chargée de prendre rendez-vous pour que je puisse ouvrir mon compte en banque. L'école a pris rendez-vous pour que je puisse aller à Cambridge et obtenir mon numéro de sécu. Donc vraiment, c'était vraiment un second départ super smooth. Parce que pour le coup, j'étais très bien préparée. J'avais fait mes petites listes de ce qu'il fallait que je fasse, comment ça allait se passer. Et en fait, ça s'est fait tellement rapidement qu'en quelques jours à peine, après être arrivée, j'étais déjà installée sans aucun souci. Ouais.
Ah, c'est super. Hein.
Ça aide bien, quoi.
Et donc, ouais, c'est ça. C'est que ça te permet de bien de démarrer sereinement et de commencer dans des bonnes conditions sans avoir le stress. Il faut trouver un logement, le papier, les machins, enfin, tout ce qu'il a à gérer, en fait.
Exactement ça. Pas de logistique, quoi que ce soit, vraiment, vraiment bien, quoi. Mais ça encore, c'est vraiment, ça dépend vraiment des écoles qui t'embauche. Voilà, c'est ça, en fait.
D'accord. Et alors, parlons famille. Mm-hmm. Comment tes parents, ta famille, tes amis ont pris ce second départ? Parce que le premier, c'est dans le cadre de tes études, donc c'est plus facile à accepter. Là, c'était un peu... je pars pour le travail, donc c'est comme ça. Et puis,
ça s'est plutôt bien passé, parce que dès que je suis rentrée de Glasgow, en fait, je leur ai dit tout de suite, d'ici quelques années, je repars. Pour essayer non plus d'être étudiante, mais de travailler et voir comment ça se passe la vie à l'étranger, tout simplement. Donc, pas de souci du côté de ma famille. Et puis, ils sont d'autant plus contents que ça leur fait un pied-à-terre en Angleterre. Donc, voilà. Mes amis, la plupart de mes amis, c'était des gens de la fac. Donc, j'ai plusieurs amis qui, elles aussi, vivent à l'étranger. J'en ai une que je connais depuis les débuts de ma licence, qui est dans un bled à 1 heure de route de chez moi. Donc, comme c'était des études de langue, on est beaucoup à être complètement dispatchés, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, c'est pas personne l'a mal pris en fait. C'est vraiment tout le monde est content et voilà. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa, plus facile à vivre au quotidien. Ouais.
Puis c'est pas si loin que ça en fait.
Pour retourner en France. Exactement ça. Bon, de Stamford, c'était vraiment bien placé parce que j'avais j'étais sur la ligne en fait entre Birmingham et l'aéroport. Donc avec un train direct en 1h30, c'était bâclé. De Scarborough, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai à peu près 4 heures de route en conduisant. Parce que de là où je vole, il n'y a pas beaucoup de... faut que j'aille à Londres, en fait. Mais c'est faisable avec un peu d'organisation. Je sais que je peux rentrer pendant les vacances si j'en ai besoin ou envie. Donc je suis pas non plus comme toi aux États-Unis où c'est peut-être un petit peu plus compliqué de voir la famille plus souvent. Je sais que j'ai réussi à rentrer au moins 2 fois par an sans problème, en fait.
D'accord, ouais. Moi, c'est... Mm-hmm. C'est sûr que de New York, je prévois pas mon vol la veille pour le lendemain, voilà. Mais c'est faisable voilà. Quand même. On a des vols très chers qui permettent de rentrer assez facilement.
C'est cool.
Et alors du coup, ces 3 années à Stanford, tu la regrettes aucunement, j'imagine. Et t'as vraiment vécu comment t'as appréhendé ces 3 années? Qu'est-ce qui fait que t'es toujours en Angleterre?
Alors en fait, ces 3 années, bah c'était vraiment cool parce que donc déjà quand je suis arrivée, on m'a mis dans cet appartement avec ces 2 autres nanas et l'assistante d'espagnol, c'était déjà sa 2e année, donc elle connaissait du monde. Ma première journée à Stanford, pour moi qui ne sors jamais, j'avais déjà rencontré quasiment tous ses amis et avec qui je suis restée très proche d'ailleurs. Donc voilà, niveau cool. Social, en fait, j'ai vraiment rencontré tout un groupe d'amis dès le début. Et comme en tant qu'assistant, on a des horaires assez flexibles, enfin, c'est à peu près 12 heures de travail par semaine, donc autant te dire que c'est pas, que ça te laisse pas mal de temps libre pour faire plein de choses à côté. Donc, du coup, ouais, non, ça a été vraiment 3 ans assez cool. J'avais pas mal d'amis, j'ai beaucoup voyagé puisque la position de Stamford encore, c'est très central, donc ça permet, enfin, tu peux prendre le train et aller un peu n'importe où. Pour la journée. Donc ouais non, c'était quand même super super intéressant, puis ça m'a donné pas mal d'opportunités parce que donc je travaillais dans cette école, j'ai travaillé pendant 3 ans. En cours de route, j'ai aussi travaillé pour une école de langue, mais cette fois-ci je donnais des cours du soir à des adultes. Donnais aussi des cours particuliers à certains de mes élèves et aussi à des gens que je ne connaissais pas, mais donc c'était plutôt pratique. Et en fait au bout de 2 ans, j'ai remplacé une de mes amies qui était jeune fille au pair le temps d'un été, et comme ça s'est très très bien passé avec cette famille, donc c'était pas à Stamford, c'était un tout petit bled à côté, ils m'ont proposé de rester vivre chez eux pour ma 3e année, donc ce que j'ai fait. Donc du coup, ça, j'ai un peu cumulé plein de choses entre mon job d'assistante, mon job de prof, j'étais un peu au pair parce que je m'occupais entre guillemets des enfants de temps en temps, donc c'était plutôt cool en fait. C'était vraiment une très bonne expérience. Ma dernière année, ça, je pense que ça a été la meilleure. Et en plus de ça, j'ai préparé mon diplôme, enfin mon entrée à l'université pour reprendre mes études, mais cette fois-ci en Angleterre.
Super. Waouh. T'as eu 3 années bien chargées quand même.
C'est ça. Mais non, aucun regret. C'était vraiment magique. Ouais, vraiment vraiment bien.
Et à la fin de ces 3 années, c'est là que tu décides de postuler pour l'autre école qui se trouve à, je ne prononcerai pas le nom de ta ville.
Alors en fait, non. Quand j'étais ma dernière année à Stamford, j'en ai profité pour postuler pour entrer à l'université en Angleterre. Alors c'est pas du tout comme en France où tu remplis un truc sur post-bac ou je sais pas quoi et en 2-3 clics c'est fait. Là pour entrer, donc c'était pour un programme qui s'appelle le PGCE. Donc en gros c'est le diplôme qui te permet d'enseigner en Angleterre. D'être plus prof et plus assistante. Sauf que rentrer à l'université, c'est vraiment tout un programme. T'as un dossier à remplir avec une lettre de motivation qui doit pas dépasser tant de caractères, voire tant de lignes, des entretiens, et t'as aussi des modalités, genre des examens. Donc, il fallait que je passe l'équivalent. Alors, ça s'appelle le GCSE. C'est un examen que les élèves passent, quand ils sont en équivalence de la seconde. Et comme moi, mes diplômes étaient français, ils n'ont pas été acceptés par l'université de York et j'ai dû passer, donc préparer et passer ces examens en maths et en langue. C'était joyeux. Il y avait en plus de ça 2 autres examens d'anglais et de maths à préparer. Ça, c'est obligatoire pour tous les gens qui veulent enseigner en Angleterre. Et donc j'ai fait ça. Enfin, j'ai préparé ça sur quasiment entre janvier et c'était quand, janvier, juillet. Ah, puis j'ai aussi dû passer des entretiens à l'université aussi, bien évidemment. C'est ça, c'était pour intégrer mon année universitaire à la fac. Voilà. Oh, donc du coup, ça s'est fait assez rapidement parce que j'ai eu mon entretien à l'université de York le 9 janvier. J'en souviens encore. Et dans l'après-midi, peut-être 2 heures après avoir quitté les lieux, il m'avait envoyé un email pour me dire c'est bon, on te prend, t'as juste à passer tes examens et enfin de maths et d'anglais et c'est bon quoi. Donc c'était plutôt cool en vrai. Donc au mois de septembre 2017, je suis partie vivre à York. Cette fois-ci pour reprendre le statut étudiante et pour passer ce diplôme.
Tout ça, tu le savais, tu allais avoir autant de choses à passer, de diplômes, enfin d'examens à repasser pour pouvoir t'inscrire à l'université.
Je le savais parce que je m'étais renseignée, mais je m'attendais quand même pas à autant de bordel administratif parce que c'est quand même des allers-retours à la fac. c'est quand même, enfin, j'ai, enfin, moi, les maths, j'ai eu 6 au bac, hein, j'ai envie de te dire, c'est pas top. Donc, il a fallu que je me reprenne. C'était l'horreur. J'ai même fait appel, j'avais pris une prof particulière, en fait, pour reprendre les bases des maths, parce que moi, à part le théorème de Pythagore, voilà, quoi. C'était un peu le seul chose qui me faisait un peu peur, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais si j'arrive pas à passer ces examens à la con?
Parce qu'en plus, ils sont en anglais, donc il faut que tu les passes et qu'en plus, tu les réussisses.
Après, figure-toi que le fait d'avoir une professeure particulière en Angleterre, ça m'a beaucoup aidée, parce qu'elle était absolument géniale et elle m'a fait apprécier les maths, chose étonnante. Et je pense que le fait d'avoir repris les bases, mais dans une autre langue, ça m'a permis de voir les choses différemment. Et de moins être... Puis comme en plus, je voulais cet examen parce que je voulais rentrer à l'université, je pense que ça m'a mise dans de bonnes dispositions pour réussir, en fait. J'étais dans le bon mindset, comme ils disent chez les anglophones.
Ouais. Une motivation supplémentaire pour arriver
à... Résultat, j'ai passé mon équivalence de GCSE, donc, et j'ai eu, sur 63, j'ai eu 62. Donc, une belle revanche.
Waouh. Ah, c'est sûr.
Merci.
Bravo. Ça me motiverait presque à reprendre des cours.
Je t'embête pas avec ça si t'en as pas besoin, ceci dit.
Alors, du coup, tu passes tous ces examens, t'es accepté, et en fait, c'est court, donc, pour être à nouveau prof, cette fois pour être prof en Angleterre, c'est l'équivalence du concours de professeur des écoles en France, c'est comme un master.
C'est équivalent, c'est master de, mais seulement en première année, et c'est à peu près l'équivalent du CAPES, entre guillemets. Sauf qu'en Angleterre, il n'y a pas de concours. Donc, tu passes cette année, tu valides ton année, donc, t'obtiens un certain statut, donc un statut de jeune prof, enfin, de prof, comment dire, récemment qualifié. Et après, c'est à toi de postuler dans des écoles, d'obtenir un job. Ta première année d'enseignement, en fait, va servir à valider ton diplôme, pour de vrai. Donc c'est pas vraiment une question de concours, là, vraiment, tout le monde a sa chance, il suffit juste après de trouver l'école qui te convient, tout simplement.
D'accord.
Donc voilà, attends.
Et alors, tu as trouvé l'école qui te convenait dans ta petite ville?
J'ai postulé pour cette école à Scarborough, qui est... Pas mentir, car Scarborough, c'est pas moche, c'est juste que c'est pas une ville exceptionnelle où vivre, mais j'ai trouvé ce job dans cette école, et c'est l'école où je suis depuis septembre 2018. Donc là, c'est ma deuxième année dans cette école.
Et alors, tu te plais dans cette école, dans cette vie?
Non, dans clairement, cette ville, non. Je déteste Scarborough, en fait. C'est le triste constat.
Ah mince.
Alors, en fait, Scarborough, je pense que c'est une ville qui est très appréciée des Anglais, notamment dans le Yorkshire, parce que c'est au bord de la mer. Là, j'ai vraiment la plage, elle est à 2 minutes en bas de chez moi. C'est pas une ville qui est particulièrement moche, mais c'est vrai que c'est une ville qui est très morte. Il y a rien à faire du tout. Le centre-ville, j'y vais quand j'ai vraiment quelque chose à acheter, notamment en librairie. Mais il y a rien à faire. Il y a un musée qui se fait en littéralement 20 minutes. Puis bon, une fois que t'as marché sur le bord de la mer 10 fois, ça devient un petit peu lassant, quoi.
Et puis j'imagine qu'en plein hiver, ça doit être plus difficile en plus. Il y a même pas la saison.
Il y a beaucoup de vent aussi. Tu peux pas sortir apprécier une petite marche. Tu sais que tu vas te prendre du vent dans la tronche et c'est pas agréable quand tu marches, je trouve. Donc non, je suis pas du tout fan de Scarborough. Mais alors pas du tout. Après, c'est un chouette coin, parce que c'est vrai que York, c'est qu'à 1 heure de route. Donc tu vois, j'y vais demain, par exemple, en train, j'en ai pour 50 minutes. Je suis en bord d'un parc national. Donc si j'ai envie d'aller me promener, je prends la voiture, je conduis 5 minutes, 10 minutes et je suis en pleine nature. Donc c'est plutôt agréable. Hein. Je dis pas le contraire. C'est juste que vivre dans cette ville, c'est pas... Voilà, je pense qu'à partir du moment où t'as grandi ici, que t'as ton cercle d'amis, ça va. Mais quand t'es, comme moi, étrangère... Mais je dis même pas forcément étrangère vis-à-vis de la France. Hein. Je pense que quand tu n'es pas de cette ville, en fait, c'est extrêmement compliqué de s'intégrer et d'apprécier, tout simplement.
Tu l'as ressenti? Tu as senti un jugement ou une mise à l'écart ou le fait que les locaux
Non, franchement, moi, j'ai absolument pas de soucis. Bon, après, je sors pas, comme je l'ai dit plusieurs fois, je suis un peu une ermite. Donc, mais j'ai jamais eu de soucis en allant à la post office ou en allant boire un café. Jamais personne m'a fait ressentir ça, quoi. Mais c'est vraiment... Par exemple, je serais incapable de dire comment je fais pour rencontrer des gens. Donc, les seules connaissances et amis que j'ai, c'est les gens avec qui je travaille. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Enfin, après 3 ans à Stamford, où j'ai rencontré des gens qui n'étaient absolument pas profs, ça fait un petit peu bizarre de se retrouver dans ce genre d'endroit où ben les seuls gens avec qui je parle, ce sont les gens qui travaillent avec moi, donc les sujets de conversation, à part parler de travail, c'est un peu compliqué quoi.
Non, ouais, ça tombe pas autre ou autre chose. C'est tu ne peux pas partager voilà. un cinéma ou aller faire un musée avec quelqu'un, c'est vraiment
cinéma,
pas possible.
Je veux te dire, tu sais, t'imagines bien le truc où dans les années 50, il y a des gens qui sont morts dedans, je suis sûre, assassinés, tu vois. C'est le cinéma de l'angoisse, quoi. Donc, non.
D'accord. Et quand t'as accepté le poste dans cette école, non. Tu savais à quoi elle ressemblait, cette ville? Ou pareil, tu y es allé un peu comme
tu
ça,
commences
sans,
à connaître,
en fait.
Moi, je suis pas du genre à faire des recherches, je suis du genre à foncer tout blessé dans les trucs, quitte à le regretter après, hein. Mais, je savais juste que l'école était bien, en fait, et je pense que je pensais plutôt à ça pour ma première année qu'à autre chose. Je voulais vraiment, parce que je savais que ma première année d'enseignement allait être difficile, parce que c'est beaucoup de responsabilités. Enfin, il y a une grosse différence entre quand tu passes ton année à l'université, ou même si tu travailles en école, t'es quand même très encadré. Si tu fais une connerie, il y aura toujours quelqu'un pour la rattraper. Je suis prof pour la première fois, avec un emploi du temps super chargé, ma classe à moi, personne pour me surveiller ou me dire quand je fais quelque chose de pas bien. Donc voilà, je voulais vraiment une bonne école. Pour ma première année, c'était un peu la seule chose qui m'importait. Après, j'aurais préféré rester à York, sauf que les postes à York, il n'y en a pas des masses et il y a beaucoup de gens qui... Enfin, c'est des... Voilà, c'est ça. Et donc...
Qui postule.
Donc voilà, c'est comme ça que j'ai atterri à Scarborough. Donc je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, hein, évidemment.
Bah, oui et non, parce que t'as quand même mis toutes les choses de ton côté. On peut pas te le reprocher. Ça, c'est sûr que t'as fait d'être le mieux possible.
Après, je sais que la situation est temporaire. Je ne vais pas m'éterniser ici. Donc, c'est pas non plus trop grave.
Mais voilà, ça amène à ma prochaine question parfaite, sans transition. Est-ce que ton contrat s'arrêtera à la fin de l'année? J'imagine que tu reprendras pas une troisième année, ou peut-être que si. Qu'est-ce que comment tu te vois?
J'ai déposé ma lettre de démission au mois d'octobre. Parce que déjà dès le début de l'année, je sentais que ça allait pas le faire, tout simplement. Mon contrat se termine officiellement le 31 août. Sachant que les vacances scolaires en Angleterre cette année sont le 17 juillet, je crois. Donc je vais rester jusqu'au 17 juillet travailler dans cette école, et après je m'en vais. Je pars de Scarborough. Donc j'ai décidé d'aller m'installer à Édimbourg. On retourne en école. Voilà. Je pars en Écosse, et je serai pas toute seule. J'ai une amie qui part avec moi, parce qu'elle, c'est pareil. Elle est dans un petit bled encore plus moche que Scarborough. Et donc du coup voilà, je ne pense pas faire une troisième année d'enseignement. Je pense que en fait c'est pas pour moi, tout simplement. C'est beaucoup trop de travail. Enfin, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est beaucoup trop précaire à mon goût.
Ouais. En tant que professeur en Angleterre,
je me positionne pas du tout par rapport aux autres profs, parce que j'ai jamais enseigné en France, donc je sais pas du tout. Mais je sais que professeur en Angleterre ou en Écosse, c'est la même chose. Donc je pense vraiment que c'est pas pour moi. Il faut que je trouve autre chose. Quoi, je sais pas encore, mais je sais que je trouverai autre chose qui me conviendra. Je pense que j'aimerais bien enseigner à des adultes, parce que des adultes, y a pas tout ce côté. Faut que je te dise d'écrire la date et de la souligner, de coller la feuille dans ton cahier, de te taire, ce qui est un peu gonflant au quotidien. Donc mais je sais pas, je me laisse pas mal de portes ouvertes. Je vais attendre et voir comment ça se profile une fois que je serai installée à Édimbourg. Depuis mon tout premier voyage et depuis que j'ai vécu à Glasgow, c'est vraiment le pays qui m'attire le plus. Je serais même pas capable de t'expliquer pourquoi. Probablement la culture, l'ouverture d'esprit, le fait qu'ils soient européens plus que les Anglais, peut-être. Tout un tas de petites choses qui font l'Écosse, c'est vraiment un pays où je me sens bien, et Édimbourg encore plus. Tu vois, je te disais tout à l'heure que je suis pas très grande ville. Alors certes, Édimbourg n'est pas une capitale à taille humaine. Enfin, tu peux te promener à pied, t'as pas besoin de prendre le bus ou quoi. Mais je sais pas, je me suis toujours sentie très bien. Mon ami qui va retourner avec moi à Édimbourg a vécu là-bas pendant 3 ans. J'ai fait pas mal d'allers-retours entre Stamford et Édimbourg, et j'ai été du genre à changer mes billets de train au dernier moment pour pas rentrer à Stamford et pour rester le plus longtemps possible en Écosse, tu vois. Donc c'est vraiment dans la ville / le pays qui me tente le plus, et j'ai toujours dit qu'un jour j'habiterai à Édimbourg. Ça se fera juste un petit peu plus tôt que prévu.
Ah, mais je te comprends parfaitement. Nous avons été en Écosse en avril 2018, on a fait un road trip de 15 jours. J'ai juste adoré Édimbourg, j'ai adoré Glasgow. Ouais. Je m'attendais pas du tout à ça comme ville, et j'ai adoré l'Écosse. Ça a été je vais pas mettre Je sais pas. J'arrive pas à dire si c'est mon plus beau voyage ou non, parce qu'on a fait des très 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 beaux ailleurs. Mais il y a quelque chose où je pourrais pas expliquer pourquoi.
Je vois tout à fait ce que tu veux dire.
Génial.
Il y a beaucoup de gens qui sont pas capables d'expliquer pourquoi, mais l'Écosse les a marqués d'une manière ou d'une autre, en fait. Alors je sais même pas pourquoi, parce que moi non plus, je suis pas capable d'expliquer. Mais il y a 2 ans, quand j'étais à York, je suis partie faire un road trip complètement au hasard. Je venais juste d'acheter une voiture et avec une de mes amies, on s'est dit tiens, si on partait en Écosse. On est parti en Écosse au mois d'avril l'année dernière, je suis repartie 15 jours sur les routes aussi, pareil, sans vraiment préparer à l'avance. C'était magique. Et donc là,
les Highlands, tout ça. Oh là là. C'est super.
C'est une espèce de vieux coucou, je te raconte même pas dans les côtes.
Dans les virages sur les routes au bord des locks. Il faut se caler, comme les routes sont à double sens, mais toutes petites, il n'y a qu'une seule voiture qui passe, se mettre sur le bas-côté vite quand la voiture elle arrive en face, parce que eux, les locaux, ils sont habitués à conduire à toute vitesse, et
après,
avec la petite voiture de location.
Quand j'étais au père, justement, je conduisais pas mal, donc j'ai l'habitude de conduire du côté anglais, mais c'est juste que là, c'était ma propre voiture que j'avais depuis littéralement 10 jours, donc je la connaissais pas encore très très bien, mais bon, c'était cool, quoi.
Ah bah, je suis contente pour toi, c'est génial de repartir à Édimbourg, c'est super. Donc du coup, j'imagine que la fin d'année, tu dois avoir hâte qu'elle arrive, et en même temps, est-ce que t'as un petit pincement au cœur de dire, c'est une page qui se tourne,
ou pas du tout? Des regrets, donc non, je vois pas ça comme ça. Je suis juste vraiment très excitée de partir vraiment. La seule chose qui va probablement manquer, c'est mon appartement, parce que vu que Scarborough, c'est un peu une ville, c'est pas une ville très attrayante, j'ai un appartement gigantesque que je paye une bouchée de pain. Donc je pense que ça va manquer à Édimbourg, parce que ça va pas être le même tarif, je pense. Mais voilà, c'est vraiment tout ce qui va me manquer, entre guillemets, quoi. Il y a rien d'autre.
Mais du coup, tu disais que pendant toutes ces années en Angleterre, d'abord à York, Stanford et là Scarborough, tu as visité beaucoup l'Angleterre, beaucoup la Grande-Bretagne en général.
Ouais, j'ai fait pas mal de petits. Alors quand j'étais à Stanford, j'ai fait pas mal de city trip. Enfin, je sais pas quoi on dit, mais sur une journée, en fait, je prenais le train le matin et je rentrais le soir et j'ai visité Oxford, Cambridge, Bristol, Plymouth, enfin, vraiment plein de petites villes assez sympathiques. J'ai eu l'occasion aussi de faire ça au Pays de Galles, mais vraiment que dans la partie sud, donc j'attends la fin de l'année scolaire pour partir explorer la partie nord. Et là, maintenant que j'ai ma deadline en Angleterre, j'ai essayé de caser pas mal de petits week-ends par-ci par-là pour aller explorer les petits morceaux d'Angleterre qu'il me reste à explorer, histoire de partir en me disant j'ai fait le tour, je peux m'estimer heureuse de partir de nouveaux horizons. Pas encore l'Irlande du Nord, j'aimerais beaucoup, mais je pense que ça ce sera plus facile une fois que je serai à Édimbourg, puisqu'il y aura un aéroport et qu'il y a des vols très très peu cher entre les deux.
Ouais. Ça avait été une des questions qu'on s'était posées. Est-ce qu'on, sur une semaine, on fait qu'une semaine en Écosse et qu'on part une semaine en Irlande? Mais il y a tellement à faire en Écosse qu'au final, on a fait les 15 jours directement. Et même en 15 jours, on n'a pas eu le temps. On a tout fait un peu c'est hyper vite. Quand tu dois tout faire au pied. Je pense que des pays comme ça à faire avec beaucoup de randonnées, beaucoup de nature, parce que l'Écosse, on s'attend pas à ce qu'il y ait autant de enfin, je pensais pas qu'il y avait autant de randonnées à faire. Je voyais beaucoup plus de châteaux à visiter. Il y en a énormément. Il y a presque dans chaque ville il y a son château, mais c'est vrai qu'il y a énormément de balades, de randonnées.
T'as même pas besoin de
pratiquer,
beaucoup,
ça,
parce
c'est
que
génial.
D'Édimbourg, il y a les Pentland Hills juste au sud, ouais, où tu prends un bus et tu y es et tu peux te promener pendant très longtemps. Il y a plein de petits, je sais même plus combien de temps de route il y a entre Édimbourg et Glasgow, mais c'est pareil. Je me souviens quand j'habitais à Glasgow, je prenais une demi-heure de train et t'es au Loch Lomond. Enfin, c'est un des plus belles endroits du monde, enfin, à mes yeux du moins.
Mm. Ouais, c'est
donc,
vrai.
Voilà, je pense que je vais être contente de cette proximité c'est vraiment un équilibre entre la ville et la nature.
C'est vrai. En plus, c'est une ville qui est hyper dynamique, Édimbourg. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses à y faire.
Je fais quelque chose de nouveau. C'est un peu comme Londres. Pourtant, c'est tellement plus petit, mais il y a toujours quelque chose à faire, un endroit à visiter, un endroit à découvrir, des nouvelles adresses à tester. Donc c'est plutôt cool, quoi.
Ah, chouette. Bah du coup, on te souhaite vraiment vraiment le meilleur dans cette nouvelle ville. Et on espère que tu nous tiendras informés de comment ça va se passer par la suite, par le podcast, de nous dire ce que tu auras trouvé comme travail. C'est génial, cette nouvelle vie qui s'annonce.
Ça me motive à aller travailler le matin.
Tu m'étonnes. Est-ce que avec le, parce que là, on peut, si on parle d'actualité, il y a le Brexit. Est-ce que tu le ressens dans toi, comme on dit, dans la région ou l'État?
La région plutôt. Pourtant, le Yorkshire, ce qui est assez étonnant, ils ont principalement voté pour partir du Royaume-Uni. Pour partir du Royaume-Uni, en 2016. Et là, le membre du Parlement qui est rattaché au Yorkshire, c'est un conservateur. Mais moi, très honnêtement, j'ai vu aucune différence. On m'a jamais reproché d'être française. J'ai jamais été confrontée, en fait, à du racisme ou, parce que je sais que ça a poussé certains Français à retourner en France. Mais moi, honnêtement, ma vie n'a pas changé, hein. Non, c'est pas, après, le fait que je travaille, enfin, que j'ai plus ou moins toujours travaillé dans des écoles en Angleterre, dans des départements de langue, c'est probablement des gens un petit peu plus ouverts d'esprit, j'imagine, parce que si tu enseignes une langue, c'est pour être attaché à d'autres pays, tu vois. Dans mon quotidien, ça n'a rien changé.
D'accord. Et pour les transports, par exemple, pour rentrer en France, ça a pas été plus compliqué,
c'était pour Noël, donc, le problème, c'est que, les gens, ils se rendent pas compte, mais l'Angleterre n'a jamais fait partie de l'espace Schengen, en fait. Donc, du coup, on a toujours eu des contrôles de papier dans les aéroports. Je veux dire, moi, j'avais beaucoup de sortir mon passeport à chaque fois que je rentre en France ou à chaque fois que je reviens. Et j'ai pas de... je pense qu'ils vont devoir changer les panneaux, comme quoi ce sera plus la file européenne. Mais bon, à part ça, je vois pas trop ce que ça va changer dans les aéroports, au final. Hein. Et du coup, non, moi, j'ai pas eu de problème avec mon passeport français. Et je pense pas en avoir, donc on verra bien. Après, postuler pour ce qu'ils appellent le settled status. Tous les ressortissants européens, donc tous les gens qui ne sont pas citoyens britanniques, doivent demander un statut de résidence permanente, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place le 29 mars l'année dernière, je crois, et tous les gens qui ne sont pas britanniques doivent le faire avant, je sais plus si c'est décembre 2020 ou janvier 2021. Mais voilà, en gros, c'est assez simple parce que si ça fait 5 ans que tu es au Royaume-Uni et que tu travailles, tu l'as directement, ils refusent pas. Moi, j'étais un peu con parce que j'ai mal calculé mes dates et du coup, quand j'ai fait la demande, ça faisait 4 mois et demi. Donc du coup, en attendant, j'ai reçu un papier qui me dit, donc c'est le pre-settled status, donc en gros la partie avant qui me permet de rester légalement jusqu'au 24 septembre 2024. Et avant cette date-là, il va falloir que je refasse le dossier pour cette fois-ci demander le vrai settled status. Mais comme je travaille et que j'ai été étudiante depuis que je suis ici, je pense pas qu'il y ait de problème.
D'accord, ça ne sera pas refusé.
Je veux dire, je suis ici depuis 5 ans et demi, j'ai toujours payé mes taxes, j'ai rien fait de mal, j'ai pas commis de crime. À partir de là, je vois pas trop pourquoi est-ce qu'ils refuseraient que je reste dans le pays, quoi.
Mais ce statut de résident permanent, c'est ça te permet de voter ou pas du tout? Non, c'est vraiment juste pour pouvoir rester un temps indéfini le territoire.
Vu que c'est pas vraiment, c'est pas la nationalité du tout.
C'est pas la nationalité.
Je pense que d'ici quelques années, une fois que je serai bien installée en Écosse, je vais faire ma demande de nationalité pour pouvoir avoir un passeport britannique et ce sera peut-être un petit peu plus simple aussi.
D'accord.
Mais bon.
C'est facile à obtenir.
Pas trop compliqué, ça se fait.
En tout cas, la demande,
t'as un test à passer. Donc en gros, qui prouve tes connaissances en culture et histoire britannique, mais bon, ça c'est pas un problème. J'ai déjà fait plusieurs tests pour rigoler sur leur site en ligne, ça s'est très bien passé. Par contre, ce qui fait un peu plus mal, c'est que ça coûte 1200 balles, quoi. 1300 d'ailleurs maintenant. Voilà. Mais bon, c'est normal, je veux dire, tu demandes la nationalité d'un pays qui est pas le tien. Je trouve ça.
D'accord.
C'est cher, certes, mais c'est pas non plus. Si je dois débourser autant d'argent, je le ferai, hein. Pas de plus très grave. Donc voilà, la situation Brexit, je sais que ça en inquiète beaucoup et qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi est-ce que moi je reste aussi calme et que ça ne m'effraie pas plus que ça, mais bon, vu qu'on sait vraiment pas ce qui va se passer, je pense que c'est un peu idiot de s'inquiéter pour rien, en fait. C'est ça, c'est se faire du mal pour pas grand chose. Alors moi, je décide d'attendre, de voir comment ça se passe.
Oui, c'est encore flou.
Puis bon, après, déménager en Écosse, l'avantage c'est que les Écossais sont très pro Union européenne, donc il y a aussi ça qui fait que ça va plutôt être pratique, quoi. Et quand tu regardes les résultats, l'Écosse clairement voulait rester, hein. Et donc du coup, depuis cette date, ça a toujours été un petit peu la guerre. Puis comme on savait pas jusqu'à présent est-ce qu'on allait vraiment sortir du Royaume-Uni, parce qu'entre toutes les dates qu'on nous a annoncées, au bout d'un moment, t'arrêtes d'y croire, hein. Tu te dis que ça va jamais se faire parce qu'ils sont incapables de se mettre d'accord. Donc, et maintenant que c'est fait, clairement, on sait toujours pas ce qui va se passer, quoi. C'est officiellement, on fait plus partie de l'Union européenne, mais qu'est-ce que ça change? Bah, on sait pas. Non, bah, à part que le cours de la livre est vachement moins élevé
oui,
qu'avant,
ça,
mais
sur le quotidien,
ça, c'est depuis le résultat du vote, donc on a l'habitude maintenant.
Ça veut dire, et d'ailleurs, oui, c'est une question que je me pose. Le coût de la vie est-elle chère en Angleterre par rapport à la France, par rapport à toi, ta région?
Stamford, c'est une ville très très chère, mais comme j'étais logée par l'école, je payais pas grand chose. Après, j'ai vécu avec cette famille, donc encore, je ne payais pas de loyer. Quand j'ai vraiment eu de la chance, pour le coup, j'ai eu de la chance. C'était très cher, très très cher comme ville. Mm-hmm. C'est une ville très touristique, très dynamique, avec beaucoup à faire, beaucoup de touristes. Mais comme il manque cruellement de professeurs en Angleterre, quand tu passes ce diplôme, tu bénéficies d'une bourse mais absolument démentielle. Quand moi j'ai fait mon année, c'était 25 000 livres. Ouais, à peu près 25 000 euros. Donc elle est plus chère maintenant. Enfin, maintenant ça doit être 26.
Ah, 25 000
c'est parce que vraiment il y a une grosse pénurie de profs, en fait, parce que en gros dans la profession il y a énormément de jeunes qui arrêtent, de jeunes professeurs qui arrêtent dans les 5 ans après avoir commencé. C'est trop prise de tête, en fait. Je dirais pas que la charge de travail est plus élevée qu'ailleurs, mais c'est la pression. Genre par exemple en Angleterre, le salaire d'un prof, il est négocié selon les résultats aux examens. Les résultats de tes élèves. Donc, si tes élèves ne bossent pas,
moins payé. Donc, tu peux faire des cours hyper motivants. Tu peux donner tout ce que tu veux à la maison si ça accroche pas, parce qu'il y a ça aussi. Il faut que ça accroche les cours avec les élèves.
C'est tellement démotivant. Parmi mes amis proches, j'en ai au moins 3 qui arrêtent. Ils ont déjà arrêté l'année dernière. Donc, tu vois, c'est vraiment une. Donc, certes, ils donnent des bourses, mais c'est parce qu'ils sont incapables de garder les profs dont ils ont besoin derrière, quoi. Mais du coup, tout ça pour dire que la vie ailleurs, que même avec une bourse aussi élevée, donc ça faisait à peu près 2000 livres de paye par mois, c'était largement faisable de vivre. Après, Scarborough, comme je disais, c'est pas une ville très attrayante, donc là j'ai un 3 chambres que je paye à peine 500 livres, donc vraiment une bouchée de pain, vraiment rien du tout. Donc, en fait, je dirais vraiment que ça dépend d'où est-ce que tu habites, ça dépend de la ville, de la région. Londres, par exemple, c'est hors de prix, comme on peut s'imaginer. Après, on se rattrape sur autre chose. Sortir, boire un coup en ville, ça coûte rien. Pour 2-3 livres, t'as ta pinte de bière. Donc, c'est cool. Les fringues, c'est partout pareil, j'imagine. Ouais. Les courses, après, c'est pareil. Tout dépend de où tu choisis de faire tes courses. Ce que tu manges. Voilà, c'est ça. Je pense pas que ce soit plus ou moins cher que dans le reste de l'Europe. C'est vraiment pas en France. Je pense que c'est assez équivalent. Il y a beaucoup de Français qui trouvent que les transports sont très chers. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'un le train, c'est assez abordable. Le taxi, c'est facile à prendre et ça coûte pas grand chose. Les assurances de voiture sont plus chères. Mais ça encore, je te dis ça, j'ai jamais payé mon assurance de voiture en France, c'est toujours mes parents qui payaient pour moi, donc là je paye relativement cher, mais encore j'ai un permis de conduire français, donc je pense que ça joue. Encore une fois,
tu n'as pas repassé ton permis en Angleterre.
Mon permis est encore valable. Je vais quand même faire une demande d'échange, je vais récupérer un permis britannique parce que ça me fera une pièce d'identité britannique, mais j'ai pas besoin de repasser quoi que ce soit. Donc c'est juste qu'il faut que je me motive à aller faire des photos pour envoyer le dossier. Je pense que le coût de la vie est plutôt pas mal.
D'accord.
Voilà, quand j'étais à Stamford, je savais jamais si j'allais rester plus d'un an. Quand j'étais ailleurs, je savais que l'année d'après, je serais ailleurs. Et là, en fait, je crois qu'en début d'année, ça m'angoissait un peu de me dire, putain, je suis à Scarborough et je sais pas combien de temps est-ce que je vais y rester, quoi. Est-ce que je vais y rester toute ma vie à moisir comme un algue ou, comment ça se passe, quoi. Et là, honnêtement, le fait d'avoir des nouveaux projets, de savoir que, je repars complètement de zéro, je sais pas du tout à quoi m'attendre, c'est vraiment un bon coup de fouet.
Ah, c'est super. Top. On a hâte de savoir la suite, de connaître la suite de tes aventures, du coup. Tu auras intérêt à tenir au courant et qu'on puisse relayer l'information, parce que là, il y a du suspense. Que va-t-il se passer?
Oui.
Je suppose que tu écoutes de temps en temps le podcast.
Ouais.
Et tu sais, tu dois savoir qu'on aime bien demander, du coup, à nos invités des lieux à recommander.
Donc, je vais parler de York, parce que pour le coup, York, en étant étudiante avec de l'argent, j'ai arpenté les bars comme pas possible. Oui, alors c'est le moment où je vais passer pour une alcoolique, mais bon, c'est pas grave. Déjà, si on a envie d'un café, on va commencer soft. Il y a un joli café qui s'appelle le Newgate. Donc c'est dans la vieille ville de York. C'est dans un bâtiment qui doit avoir 700 ou 800 ans, donc c'est toute guingois avec des poutres apparentes. C'est vraiment chouette et c'est juste à côté, enfin ouais, de la rue qui s'appelle les Shambles, donc la rue qui apparemment aurait inspiré J.K. Rowling pour son chemin de traverse. Donc tu peux imaginer. C'est vraiment mignon, moi j'adore. Donc puis c'est assez réputé. Donc le samedi c'est difficile d'avoir une table, mais le café est très bon. Leurs gâteaux sont très bons aussi. Ensuite, bah pour aller après le café, il faut aller boire une bonne pinte. Le meilleur endroit, c'est ça. Le meilleur endroit pour ça, c'est d'aller au Valhalla. C'est pareil, au Great Shamble, donc un tout petit, toujours dans ce petit quartier médiéval. C'est un pub d'inspiration viking nordique. Donc comme tu peux imaginer, c'est un tout petit endroit bien chaleureux avec du mobilier en bois brut, des fourrures posées un peu partout, et tu peux boire de l'hydromel dans des cornes comme les Vikings. Bon, c'est dégueulasse, mais c'est quand même à essayer. Voilà, c'est très fort, c'est très très fort. Mais c'est quand même à essayer. Et en plus, la musique, c'est que du métal. Vraiment, vraiment cool. Et enfin, pour faire couler tout ça, il faut aller à The Botanist, qui est un cocktail bar, donc un bar à cocktail, d'inspiration botanique, où ils font beaucoup, beaucoup de choses sur le thème des fleurs, beaucoup de cocktails un peu bizarres qui fument, qui sont très frités, parfumés, vraiment vraiment sympa. Voilà, c'est vraiment mes trois endroits à ne pas manquer quand on va à York. Wow. Mais là encore, c'est trois endroits qui sont assez réputés, donc il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, faut pas hésiter à y aller en fin d'après-midi comme tout bon Britannique qui se respecte de toute façon, hein. Oui, parce que l'heure à laquelle on mange son repas le soir, c'est 6h, donc bon.
Nous avions été fortement surpris en Écosse parce que donc on arrive, on est à Édimbourg. Édimbourg, vu que c'est une ville assez grande et assez étudiante, populaire, les restos ne ferment pas trop tôt, on va dire. Par contre, après, on est monté dans les Highlands et on fait une randonnée qui, on n'avait pas prévu qu'elle serait aussi longue, donc elle se termine un peu tard. On rentre au bed and breakfast, se prendre une douche et tout, et on ressort. Il devait être le coup de 19h30, 20h peut-être, hein. Et là, on cherche les restaurants. Oh, tous fermés, plus rien. On a fini à prendre un fish and chips au bord de la route et à le manger dans notre voiture avant de rentrer se coucher. C'était, ah ouais, ouais. Et effectivement, mais après, on s'est dit, les 15 derniers jours, on va manger comme les locaux.
Même ailleurs, on va aller au resto à
5h30, en fait.
C'est quand même, difficile de manger très tard, quoi. Bon, à part le botaniste où c'est un cocktail bar, donc c'est ouvert tard, entre guillemets, je crois qu'il ferme à 1h du matin, tu vois. C'est quand même super tôt, hein, pour nous, qui avons l'habitude des boîtes de nuit ouvertes jusqu'à 7h du matin. C'est un peu, mais bon, tu t'habitues. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est assez rigolo dans le Yorkshire. Donc, ils ont leur dialecte, qui est assez, assez spécial. Et par exemple, le lunch, ils appellent pas ça le déjeuner ou le lunch, ils appellent ça le dîner. Et du coup, l'heure du dîner, pour eux, c'est l'heure du thé. Donc, on t'invite à prendre le thé. Ben, tu es obligé de demander, est-ce que tu m'invites à dîner ou est-ce que tu m'invites à boire du thé? Parce qu'une fois, une amie m'a invité comme ça à son tea time. Donc, moi, je me suis dit, ah, oh, cool, on va pouvoir manger du thé avec des petits gâteaux et tout. Ah, ben non, on a mangé de la pizza. Avec une tasse de thé.
Mais ouais, voilà, c'est ça montre bien un peu cette mentalité de je mange et je bois tôt.
C'est d'ailleurs pour ça que les pubs, c'est pas rare de voir des gens vraiment très bourrés dans la rue, alors qu'il est 8h30, quoi. Toi, tu viens de manger ton dessert et eux, ils sont déjà à ramasser avec. Ça m'est arrivé aussi, du coup, parce que
Ah bah oui, tu prends les habitudes du pays, attends. Comme ça qu'on s'intègre.
Forcément, on s'acquiert.
C'est fou, ça. Ah bah merci pour toutes ces bonnes adresses, Ophélie, et qui donnent envie en plus, hein, vraiment top. On a hâte de savoir la suite.
Merci de m'avoir reçu. À bientôt.
À bientôt.
Et oui, c'est déjà fini, c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster, cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités un peu partout dans le monde. Merci infiniment à tous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, laissez-nous plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcasts, c'est le meilleur moyen de nous aider. Je voudrais partager avec vous une review qui nous a été laissée par Celius. Celius nous dit « J'adore écouter les différents témoignages, différentes histoires toutes plus enrichissantes les unes que les autres, ça donne envie de tout recommencer au bout du monde. » Merci à toi pour ta review et nous te souhaitons une belle écoute pour les prochains épisodes. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn @FrenchExpat le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple. Direction notre site internet FrenchExpatPodcast.com. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.